L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Merci. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu maintenant? Amen. Donc, si vous êtes prêts, on va aller dans Ésaïe 26 et le verset 3 à 4, mais juste avant, on va prier. Père éternel, on te remercie parce que tu es un Dieu tellement merveilleux. Tu es un Dieu glorieux, un Dieu qui nous donne une destinée, un espoir pour notre avenir. Et aujourd'hui, on veut tenir ferme. On veut te suivre à tous les jours de nos vies. On veut vraiment te glorifier dans nos vies. Puis on prie, Seigneur, Esprit de Dieu, viens te révéler à nos cœurs aujourd'hui. Viens te révéler aujourd'hui personnellement pour qu'on soit rencontrés et transformés. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 26 et au verset 3, nous lisons « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Ici, ce que je trouve merveilleux, c'est dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments. » Dieu nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Amen. Dieu vous appelle à aimer le Seigneur Jésus de tout votre cœur, de l'aimer de toute votre force, de tout votre être, de toutes vos pensées. Dieu vous appelle à être totalement consacré à Dieu et à être ferme dans votre amour pour le Seigneur Jésus et ferme envers votre engagement envers le Seigneur. Mais c'est-à-dire, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Voulez-vous vivre la paix de Dieu dans vos vies? Amen. Parce qu'il se confie en toi. Mais une des choses qu'on veut faire ce matin, c'est être conscient de notre contexte présent. Nous vivons, dans ce que la parole de Dieu nous dit, les derniers temps. Mais ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers temps. Là, nous sommes dans les derniers des derniers temps, vraiment à la fin. Quand vous écoutez les nouvelles, vous entendez des histoires terribles avec l'État islamique qui se lève, où les chrétiens partout se font décapiter. Quand on écoute ces choses-là, nous savons que nous sommes en train d'expérimenter l'accomplissement prophétique que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Si on écoute les nouvelles, on voit, si on connaît la Bible, pendant qu'on écoute les émissions, pendant qu'on écoute l'actualité, on entend en nous des versets de la Bible. On les entend parce qu'on sait, on voit que le Seigneur est en train de nous révéler ces choses-là, que l'accomplissement prophétique est là. Bon, devant tout ça, on doit comprendre qu'il va y avoir un contexte spirituel dans les temps de la fin. Parce que si on veut tenir ferme dans notre amour pour le Seigneur et tenir ferme dans notre engagement, on doit comprendre que les esprits méchants dans les lieux célestes, ces esprits-là veulent nous empêcher de poursuivre dans notre appel. L'ennemi veut vous empêcher de tenir ferme. Il veut plutôt que vous soyez là et vous dites « j'abandonne ». Avez-vous déjà eu le goût d'abandonner? Oui, bon, ben, gloire à Dieu. Peut-être deux, trois personnes. Le restant, je vais prêcher pour vous. Puis un jour, si ça vous arrive, si jamais ça vous arrive, ben, vous écouterez l'enseignement. Personne. Mais avez-vous déjà eu le goût humainement, j'ai le goût de tout lâcher. Ça arrive. Hein? Des fois, on est là, puis qu'est-ce que ça donne, ce que je fais? En passant, Dieu m'a donné le message vendredi, puis samedi matin, quelque chose comme ça. Donc, juste vous dire, on passe tous par des périodes plus difficiles. Peut-être c'est dans votre travail, peut-être c'est dans votre famille, peu importe. La vie sur la terre implique des défis. Puis des fois, on vient fatigué. Avez-vous déjà été fatigué? Épuisé? Bien, gloire à Dieu, je peux vous dire, moi, là, je ne suis pas épuisé et je ne suis pas fatigué. Puis vous pouvez vivre la joie du Seigneur aussi et vivre vraiment, je ne sais pas comment dire, mais la joie du Saint-Esprit avec vous en tout temps. Puis je veux vous donner la clé aujourd'hui. Parce que vous allez sortir, si vous êtes là et vous dites, je suis fatigué, je suis épuisé, bien, le message est pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Puis si vous dites, non, moi, je suis en forme, bien, le message est pour vous aussi. Demeurez en forme. Amen. Hallelujah. OK. Donc, soyons conscients aujourd'hui de notre contexte présent. Venez avec moi dans 1 Timothée chapitre 4 et le verset 1. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 1. Ici, nous lisons dans 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, on sait qu'à la fin des temps, les gens vont être séduits, ils vont même abandonner la foi. Ils vont dire, oh, qu'est-ce que ça donne? Je suis fatigué, ça ne marche pas la vie chrétienne, j'abandonne, je m'en lave les mains. Ça nous dit justement que dans les derniers temps, ça va arriver. Donc, si jamais vous avez été tenté de tout abandonner ou de dire, bon, qu'est-ce que ça donne? Si vous avez été tenté, comprenez ceci, que probablement, c'est un esprit méchant dans le monde invisible qui vous a menti, qui vous a donné, qui a semé cette pensée-là que vous avez reçue. Peut-être, si vous avez passé du temps à y réfléchir, vous avez entretenu des paroles qui viennent du royaume des ténèbres. Comprenez aussi que le royaume des ténèbres n'est pas pour vous, mais le royaume est contre vous. Ce royaume des ténèbres veut vous détruire. Donc, si on est conscient, quand j'entends une parole comme ça, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne vous dira jamais, oh, ça ne donne rien. Hein? Est-ce que Dieu va vous dire, ben, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne donne rien dans ta vie. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Le Seigneur ne parle pas comme ça. Ça, c'est la voix du diable. Donc, on a le choix d'entretenir ces paroles-là ou faire le ménage. Je dis non, mon Dieu m'a appelé et je sais que ça donne au moins une chose, je m'en vais au ciel. Amen. Puis si c'est tout ce que je vis sur la terre, bien au moins je m'en vais au ciel. Alléluia, ça vaut la peine. Mais je peux vous dire, vous allez avoir beaucoup plus que le ciel. Parce qu'aujourd'hui, Dieu vous appelle à vivre la présence de Dieu. Amen. OK. Mais soyons conscients qu'on est dans une guerre spirituelle. Et dans la version Martin, le même texte, 1 Timothée 4, verset 1, nous lisons « Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront de la foi. » Donc, ce n'est pas juste l'abandon, mais c'est une révolte, comme être frustré de la foi, s'adonnant aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Donc, l'ennemi veut vous avoir. Mais gloire à Dieu, il ne peut pas nous avoir. À moins qu'on lui dise, OK, tu peux m'avoir. Mais l'ennemi n'a pas d'autorité sur vous. Gloire à Dieu. La seule autorité que l'ennemi peut avoir, c'est si vous lui donnez cette autorité-là. Mais tant ou si longtemps que vous dites, moi, je marche avec Jésus. Peu importe ce que l'ennemi va me dire, peu importe les oppressions qui peuvent venir contre moi, moi, au nom de Jésus, je fais le ménage. Et je décide, je vais tenir ferme dans ma relation avec Dieu. Je vais tenir ferme. Gloire à Dieu pour ça. OK, donc une des choses, comprenez juste ceci. Si jamais vous avez eu le goût d'abandonner le Seigneur Jésus, comprenez ceci, que ça fait partie de la game. Parce que le diable va vous tenter comme ça. Ça fait partie du forfait du diable. Mais on ne veut pas le forfait du diable, on veut le forfait de Dieu. Amen. Les épreuves sont une réalité de notre expérience humaine. Je dois vous le dire, malheureusement, pour les autres personnes, parce que je sais qu'il y a juste 3 personnes ce matin qui ont vécu le goût d'abandonner, mais pour les autres, vous n'avez jamais rien vécu encore, mais je dois vous le dire, éventuellement, vous allez comprendre que sur cette terre, il va y avoir des épreuves. Amen. Okay. Donc, je vous le dis, je sais, c'est désolant, je dois vous péter votre ballon là. Sur cette terre, vous allez vivre des épreuves. OK. Vous ne me croyez pas? Venez avec moi dans Ésaïe 43, verset 2. Je dois vous le dire, oui, je vais vous le prouver, là. Pensez pas que je vous enseigne des fausses doctrines. Les épreuves sont une réalité, frères et sœurs, sont une réalité. Dans Ésaïe 43 et le verset 2, je vais vous lire dans la Bible du Semeur. Nous lisons ici, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » Dieu nous dit ça. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marches dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Donc, Dieu nous dit, il va y avoir des épreuves. Quand ces épreuves-là vont se produire, bonne nouvelle, moi, je suis là avec vous. Et je fais la différence dans l'épreuve. C'est ça que Dieu nous montre ici. Je fais la différence. Malheureusement, certains mourront dans l'épreuve. D'autres deviendront plus forts. On a le choix. Donc, l'épreuve va venir forcément. L'épreuve va venir. L'ennemi va envoyer des choses pour vous détruire. Certaines personnes vont se laisser détruire en ouvrant la porte et en s'accordant avec le mensonge du diable. Le diable vous dit, admettons, vous avez une épreuve, c'est la maladie. Et le diable vous dit, ça va aller de pire en pire et tu vas finir par mourir de cette chose-là. Et puis là, vous avez reçu cette parole-là, vous l'avez accueillie et vous vous êtes accordé avec cette parole-là, puis vous dites, c'est bien vrai, je vais aller de pire en pire, puis je vais mourir de ça, et ça va vous arriver. Parce que vous êtes accordé avec le mensonge. OK? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Certaines personnes vont mourir parce qu'ils s'accordent avec Satan. Mais il y a d'autres personnes, ils vont entendre un rapport similaire, peut-être c'est les finances, peut-être c'est dans votre couple, peut-être c'est, peu importe le défi dans votre vie. D'autres personnes vont avoir ce défi-là, un problème. Mais au lieu de s'accorder avec le rapport de l'ennemi, ils vont s'accorder avec le rapport de Dieu. Même s'il n'y a rien au monde qui semble indiquer que la vérité de la parole de Dieu est vraie, même si tout autour de vous, ça semble dire le contraire, il y a des gens qui vont dire « Il est écrit et je ne change pas ma position. » Il est écrit et je me tiens dans la vérité. Et là, en m'accordant avec la parole de Dieu, en déclarant la parole de Dieu, les circonstances changent. Les circonstances changent. Gloire à Dieu. Donc, la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il faut être violent en esprit. Il faut dire, je crois la parole de Dieu et je ne changerai jamais mon avis là-dessus. Je crois la parole de Dieu. Amen. Donc, les épreuves sont une réalité de notre expérience humaine. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Gloire à Dieu. Donc, dans Jérémie 17, venez avec moi, versets 7 à 8. Jérémie 17, versets 7 à 8. Ici, là, on lit un texte merveilleux qui nous dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » Bon, là, on l'a lu une fois, mais on va le relire et on va décortiquer ce passage-là. Donc, je suis dans Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Donc, même si on a des épreuves, si on se confie dans le Seigneur, nous sommes bénis. Le croyez-vous? « Et dont l'Éternel est l'espérance. » Tant et aussi longtemps qu'on place notre foi, on a de l'espoir, parce qu'on place notre foi dans celui qui ne nous laisse jamais tomber. Tant et aussi longtemps, même si je peux avoir des épreuves dans ma vie, des difficultés, si je regarde vers le Seigneur, la Bible me dit « je suis rayonnant de joie ». Que je regarde au Seigneur, puis « Seigneur, je place ma foi en toi ». Et là, je suis rempli d'espoir. Il est comme un arbre. Donc, celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre. Pouvez-vous vous stationner là pendant quelques instants, là, ou en France, vous garer? Venez-vous stationner là et voyez ce que la Bible vous dit ici. Ça dit, il est comme un arbre. Est-ce que vous pouvez vous voir en tant qu'un arbre? On va prendre le temps, on va vraiment le voir, là. Parce qu'on lit tellement vite, on prend pas le temps de digérer ce qu'on lit. C'est comme ça, on mange, là. Il est comme un arbre. Bon, quelle sorte d'arbre? Un sapin de Noël? Peut-être, si vous voulez être un sapin, vous voulez vous voir comme un sapin, peut-être vous voyez comme, je ne sais pas, un cèdre, peut-être, un chêne, bon, hallelujah, vous êtes ce que vous voulez. En ce moment, vous pouvez choisir, OK? Bon, voyez-vous pas comme un petit, rien, là, mais au moins un arbre, OK? Vous voyez comme un arbre? Il est comme un arbre près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Le courant de quoi, là? Pas un courant électrique, là. On parle de courant d'eau. Un courant d'eau ici, le fleuve de Dieu. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. La chaleur vient, le soleil. Mais parce que l'arbre est bien nourri, il y a de la sève, tout le kit, ça va bien, parce qu'il est bien connecté à la source d'eau. Donc l'arbre est connecté. Et puis, vous savez, quand un arbre fait des racines, on comprend que les racines vont en profondeur. Ce n'est pas juste des petites racines, mais souvent, les racines sont plus grandes, même sous le sol qu'au-dessus. C'est-à-dire que l'arbre est plus important même dans le sol. Donc, ça dit, « Et qui étend ses racines vers le courant et n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. » Voyez-vous, là, on parle de vous, là. OK, son feuillage, donc vous n'êtes pas un sapin, ça ne marche pas ça. Mais vous êtes un arbre avec des feuilles. OK? Donc, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il y a une grande sécheresse, là. Les arbres sont tous en train de mourir. Les feuilles sont en train de tomber. Les arbres tombent, puis on les met au feu. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe avec vous, les enfants de Dieu? Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. il ne cesse de porter du fruit. En plus, dans le milieu de la sécheresse, comment ça? Vous êtes un arbre, il fait chaud, les arbres autour de vous meurent, sont desséchés, ils perdent leurs fruits, des pommes toutes desséchées, ça tombe à terre, les feuilles tombent à terre, c'est la mort partout. Mais pour vous, celui qui se confie en l'Éternel, la Bible dit, vous êtes comme un arbre. Et même le soleil sort, c'est la sécheresse, et vos feuilles sont encore là, les belles feuilles vertes ou rouges, si vous êtes un érable. Vos feuilles sortent, les fruits, peut-être pas sur un érable, ça ne marche pas, là, mais vos fruits sortent. On va dire un pommier, ça serait bien ça peut-être. Hein? Son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Pourquoi ça? Il n'a point de crainte. Il ne cesse pas de porter du fruit parce qu'il se confie en l'Éternel. Ça fait, je me confie en l'Éternel, donc peu importe les épreuves, peu importe le climat spirituel dans lequel je vis, peu importe, même si le soleil vient, même si le vent vient, peu importe les épreuves, je reste ferme, je peux tenir ferme parce que mes racines sont profondément dans la source, ils sont là, et puis je viens m'abreuver dans le fleuve de Dieu, je viens m'abreuver dans l'Esprit de Dieu. Parce que souvent, dans la parole de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu comme étant un fleuve, des fleuves d'eau vive. Si on est bien branché, on est bien connecté, mais gloire à Dieu, peu importe les épreuves, on peut tenir ferme. Parce qu'on ne se tient pas avec notre puissance humaine. On n'est pas là et dit « Ah, oh, j'espère de me rendre jusqu'au bout, j'espère que je vais toffer, j'espère que je vais avoir la force. » Non, c'est l'Esprit de Dieu qui vous tient. C'est l'Esprit de Dieu qui vous garde. Tant et aussi longtemps que votre volonté est là, puis vous dites, oui, Seigneur, je veux te servir, je veux être avec toi. Gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu est votre portion. Amen. Mais je suis d'accord avec moi-même. Alléluia. Il y en a d'autres qui vont dire amen. Gloire à Dieu. Venez avec moi maintenant dans le psaume 145 et le verset 8. Gloire à Dieu. Une des choses, si on veut tenir ferme dans les temps de la fin, si on veut vraiment tenir ferme dans notre foi, dans notre engagement envers le Seigneur, on doit discerner qui est notre ennemi véritable. Déjà là, si je sais, je dois placer ma foi dans le Seigneur pour être cet arbre qui tient ferme, qui prospère même dans un moment de disette ou dans la sécheresse. Peu importe si j'ai cette foi dans le Seigneur puis je dis oui, je poursuis avec mon Dieu. On doit comprendre, par exemple, et discerner qui est notre ennemi véritable. Certaines personnes vont dire, et j'ai déjà entendu ça, « Ben moi, je suis en colère contre Dieu. Je suis en colère contre Dieu. Parce que Dieu m'a déçu, par exemple. » Peu importe. Je veux vous aider aujourd'hui. Je veux vous aider. Parce qu'on veut discerner qui est notre ennemi véritable. Dieu n'est pas votre ennemi, frères et sœurs. Dieu n'est pas votre ennemi, Dieu n'est pas votre problème, il est celui qui peut vous secourir dans votre problème. Des fois, il y a des gens, quand ils vivent de l'opposition spirituelle, ou ils vivent un défi, un problème, il y a quelque chose qui vient contre eux. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est les gens vont avoir soit une, il y a deux réactions possibles. C'est soit qu'on s'approche de Dieu quand ça va mal, ou on se détourne de Dieu. Il y a deux réflexes. Mes frères et sœurs, je veux vous aider aujourd'hui. Comprenez ceci, le réflexe, c'est toujours se tourner vers celui qui peut vous aider, vers celui qui veut vous secourir. Ne voyez jamais le Seigneur Dieu comme étant votre problème. Dieu n'est jamais votre ennemi, mais le diable est votre ennemi. C'est que là, admettons, ça va mal, puis oh, moi j'abandonne le Seigneur, je me détourne de lui. Vous vous détournez vers de celui qui peut vous aider, qui peut résoudre votre problème. Ça ne fait pas de sens, mais en fait, c'est ça que Satan veut pour vous. Il veut que vous puissiez voir le Seigneur Dieu comme étant votre ennemi, mais en fait, c'est lui l'ennemi, c'est lui le méchant. Notre Dieu est un bon Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un bon Dieu, il veut votre bien. Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Mais on connaît également dans le même texte, dans Jean 10:10, ça nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable vient vous voler, vous égorger et vous détruire. C'est ça que la Bible nous dit. Moi, je crois à la Bible. Je crois que c'est le diable qui vient me voler, qui veut me voler, qui veut m'égorger, qui veut me détruire. Mon Dieu ne veut pas faire ça. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui vient me donner la vie et la vie en abondance, qui dure pendant l'éternité. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous dire, si vous êtes en colère contre Dieu ou si vous avez déjà été en colère contre Dieu, Dans le psaume 145, verset 8, ça dit « L'Éternel est miséricordieux ou plein de grâce et compatissant. » Notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de compassion, lent à la colère et plein de bonté. Le Dieu de la Bible est plein de bonté, frères et sœurs. Dans Jacques, chapitre 1, verset 17, je vais vous lire certains versets peut-être rapidement, vous pouvez le prendre en note si vous voulez. Ça nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, c'est lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Donc, comprenez ceci, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père. Notre Dieu, notre Père des Lumières. Ici, ça dit que les dons et la grâce excellente nous viennent de lui. Donc, Dieu, notre Père céleste, est celui qui veut nous faire des dons. Et le plus grand don, c'est la vie éternelle. Mais dans toute notre vie, il veut nous donner de ses dons, son amour, sa compassion, sa paix, sa joie, toutes ces choses-là. C'est ça que Dieu en réserve pour nous. Mais là, si vous êtes en colère contre Dieu, vous travaillez en fait contre vous-même. Vous travaillez contre vous-même en étant en colère contre Dieu. Parce que vous, en fait, vous fermez la porte à celui qui vous aime, à celui qui est bon, à celui qui est compatissant, plein de grâce pour vous. Et puis des fois, on s'imagine, bien, tout le monde sait ça. Mais en fait, là, non, c'est vrai, c'est faux plutôt. C'est faux. C'est pas tout le monde qui réalise ça, qui comprend ça. Parce que si vous n'avez jamais vécu des épreuves très difficiles, peut-être aujourd'hui vous dites « Ah ben, ouais, c'est vrai, je crois ça. » Mais quand c'est vraiment difficile, puis vous êtes devant une situation pénible, des fois il peut y avoir ce réflexe-là, où on va se détourner de Dieu. Mais aujourd'hui, pendant que ça va bien, prenez la décision, non jamais que je vais me détourner de Dieu. Je vais demeurer ferme, je vais me tenir ferme, et je vais marcher avec cette stabilité dans ma relation avec Dieu. Puis si vous êtes déjà éloigné de Dieu, bien, gloire à Dieu. Aujourd'hui, ça peut être votre moment où vous allez recevoir l'illumination du Saint-Esprit qui vous révèle que Dieu n'était pas coupable. Mais des fois, les gens vont dire, « Oui, mais c'est des gens de l'Église qui m'ont blessé. J'ai déjà été blessé dans l'Église. » Eh oui, ça se peut fort bien que vous avez été blessé à l'Église. Et je suis désolé pour ça. Et Dieu est triste de ça. Dieu ne veut pas que ses enfants fassent une mauvaise représentation de son royaume ou de son cœur. Je suis triste pour ça. Malheureusement, nous, les êtres humains, nous sommes imparfaits. Et on peut être blessé dans une église. Mais aussi, je dois vous dire qu'on peut être blessé au travail. Et on va travailler quand même. On peut être blessé chez Walmart avec une caissière qui est méchante avec nous. N'est-ce pas? Ou c'est juste à l'église qu'on peut être blessé? On peut être blessé partout. On peut être blessé partout dans ce monde. Parce que les êtres humains sont imparfaits. Mais ne mettez jamais les blessures reliées aux chrétiens et les blessures reliées à Dieu, c'est deux choses différentes. Les êtres humains demeurent imparfaits, mais Dieu est parfait. Il est parfaitement en amour avec vous. Il veut votre bien, il veut vous secourir. Amen. Gloire à Dieu. On ne fait pas, « Oh, les chrétiens, c'est comme ça. » Oui, les chrétiens peuvent faire plein de fautes, puis vous aussi, tant qu'à ça. Vous aussi, vous pouvez en faire des fautes. Heureusement, vous avez un Dieu compatissant qui vous pardonne. Amen. Amen. Non, mais c'est vrai. On peut être blessé, mais on peut être blessant aussi. Ça fait que, est-ce qu'on va rejeter Dieu pour ça? C'est comme si mes enfants font un mauvais coup, puis après, le voisin arrive chez nous, puis il est frustré contre moi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait, là, mais c'est tes enfants, puis je suis choqué contre toi. Mais c'est la même affaire avec Dieu. C'est juste ses enfants, des fois, qui sont mal commodes. C'est vrai. Des fois, ses enfants sont mal commodes, mais c'est pas la faute de Dieu, ça. Dieu est bon, il est toujours fin, il n'est jamais de mauvaise humeur. C'est pas un aide de but, notre Dieu est compatissant, il nous aime. Gloire à Dieu. Ou d'autres personnes qui vont dire, ah, je vais juste vous lire certains versets. Romains 8, 31, ça nous dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Mais des fois, c'est vous-même, vous êtes contre vous-même, parce que vous êtes contre Dieu. Mais, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour moi, même si je me fais attaquer, ou peu importe les problèmes, l'opposition, mais si Dieu est avec moi, comme j'ai lu au tout début, là, Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Il n'y a personne plus fort que mon Dieu. Mais si Dieu est contre vous, qui pourrait être pour vous? Ça ne marche pas bien. Mais si je sais que Dieu est avec moi dans l'épreuve, je peux garder mes yeux sur lui et puis être dans la confiance, sachant que mon Dieu est capable de m'en sortir. Gloire à Dieu. Et dans Actes 5, 39, ça dit « Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Soyez sages, frères et sœurs, ne combattez pas contre celui qui vous aime. Ne combattez pas contre celui qui vous aime, qui veut votre bien. Le psaume 118, verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Gloire à Dieu, soyez en sécurité. Soyez en sécurité, sachant que Dieu est pour vous. Mais là, il y a des gens qui vont dire, « OK, ben parfait, je te l'accorde. Je peux en colère contre Dieu. Je te l'accorde. Mais, il y a du monde qui m'ont fait du mal dans la vie. Ah, c'est vrai. OK, êtes-vous prêts à lire ce que la Bible nous dit concernant ça? Il y a des gens qui vont dire, « Ouais, ben moi, là, c'est du monde qui m'ont vraiment blessé. » Et je peux vous dire, il y a des blessures qui sont absolument légitimes. C'est vrai, il y a des fois des situations blessantes. Mais on peut se laisser totalement dévorer par le royaume des ténèbres si on accueille toute la cochonnerie du diable en nous. Puis on dit, ils m'ont fait du mal, puis moi, là, je suis rempli de haine contre ces gens-là. La haine vous tue, frères et sœurs. La haine vous tue. Moi, là, je veux faire, comme le Seigneur Jésus dit, le royaume des ténèbres n'a rien en moi. Non, moi, j'ai tellement aimé ça. En lisant la Bible, Jésus dit, le royaume des ténèbres, le prince de ce monde vient et il n'y a rien en moi. Jésus était pur. Il n'y avait pas de cochonnerie en dedans de lui. Tout ça, il a fait le ménage. Sûrement, il y a des gens qui ont blessé Jésus. Moi, je suis sûr de ça. En marchant sur la terre, sûrement, là, ses frères là, qui n'ont pas cru en lui pendant un bon bout de temps, là, ça a dû être assez blessant, ça. Pensez-vous, Jésus, il part du ciel, il quitte la gloire du ciel. Il était super béni là, et très heureux au ciel. Mais il quitte tout ça pour venir sur la terre, marcher dans le sable, puis avec du monde pas fin, puis avec même ses frères ne croyaient pas en lui. Ça a dû être plate, ça, et blessant. Bon, mais Jésus a dit, « Satan n'a rien en moi. » Il a fait le triage, même sûrement il a dû éprouver des émotions, Jésus, là. Mais il n'a pas permis à ces choses-là de devenir des racines en dedans de lui. Parce que ces choses-là viennent vous siphonner la vie et viennent vous tuer. Là, dans Romains 12, verset 19, la chair, là, quand vous êtes blessé, la chair vous invite à démolir les personnes qui vous ont blessé. La chair veut se défendre et veut faire du mal à l'autre. Est-ce que ça se peut, ça? OK, je vais parler dans cette section-là. Eux, ils m'écoutent, là. Sérieusement, non, vous comprenez? La chair, là, admettons que je vous fais mal, là. Vous êtes là, là, puis je passe à côté de vous, puis j'écrase votre gros orteil. Je fais ça. Tiens. Là, vous dites, hey, il n'est pas fin, ce pasteur-là. Je fais ça encore. Là, là, il n'est vraiment pas fin. Qu'est-ce que vous voulez me faire? En retour. N'est-ce pas? Ça, c'est la chair. OK. Bon, c'est merveilleux comme illustration. Faites-moi pas ça tantôt, là. Romains 12, verset 19, nous dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Bible du Sommeur maintenant, même verset. Ça dit, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. » C'est moi qui rendra à chacun son dû. Wow! Ça veut dire que quelqu'un vous fait mal? La Bible vous dit, bénissez ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous maudissent, bénissez-les. Quelqu'un vous fait du mal, la réponse de l'enfant de Dieu, premièrement, la blessure, là, on comprend, il y a des blessures légitimes. Elles sont vraies, là, c'est blessant, puis c'est blessant. Qu'est-ce que je fais avec ça? On va tous passer par là quelque part, on va tous être blessés à un moment donné. Donc, on est mieux de le savoir à l'avance parce qu'il y en a juste trois qui ont été blessés, puis le restant, je sais que vous autres, vous avez besoin de le savoir, je vous le dis à l'avance. Quand vous allez être blessé un jour, là, ce que vous faites, vous ne faites pas la négation. Je ne suis pas blessé. Oh non, je ne suis pas blessé. Puis comme ça, je ne suis pas blessé. Non, vous êtes blessé, là. Vous êtes blessé. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette blessure-là? Vous dites, Seigneur, je suis blessé. Correct. On le dit au Seigneur, je suis blessé. Mais là, on dit, Seigneur, là, je te donne cette blessure-là. Parce que je ne suis pas capable de la gérer tout seul. Je te donne cette blessure-là. Seigneur, prends ma blessure. Puis Dieu, il va la prendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire couler de son ciel l'onction, puis il va venir guérir votre cœur brisé, votre cœur blessé. Il va vous guérir. C'est ça que Dieu fait. C'est ça, c'est son expertise. c'est de venir vous guérir, vous restaurer. Puis là, vous dites, OK, Seigneur, je reçois dans mon cœur ta guérison et je choisis d'aimer celui qui m'a fait du mal. Je choisis d'être gracieux comme toi, tu as été gracieux envers moi. Puis je ne me fais pas de justice là-dedans, je ne me défends pas, même si les gens vont m'attaquer après parce que cette personne-là me fait du mal, par exemple. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous font du mal. Seigneur, je refuse de me défendre parce que tu dis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Parce que Dieu, c'est mon Père. Savez-vous ça? Dieu, c'est mon papa. Dieu est votre Père. Quand il y a quelqu'un qui vous fait mal, frères et sœurs, votre Père céleste, il n'est pas content. Moi, là, s'il y a quelqu'un qui venait chez nous et qui faisait mal à mes filles, là, je ne serais pas content. Vous comprenez? J'aime mes filles. Aimez-vous vos enfants? Mais quand quelqu'un vient vous frapper vos enfants, admettons, là, mais qu'est-ce qui ressort en vous? C'est comme, oh, alléluia, j'ai... Non, c'est pas ça. C'est comme, hey, c'est mon enfant. Il y a la colère là, qui s'installe, n'est-ce pas? Une sainte colère. On ne frappe pas notre enfant. On fait pas. On veut protéger. Mais Dieu, c'est notre Père céleste. Dieu, c'est votre papa. C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait mal, puis vous décidez de laisser ça entre les mains de Dieu, puis vous décidez d'aimer et de pardonner et de relâcher, puis vous dites, Seigneur, moi, je veux rien en moi là, qui vient du royaume des ténèbres, je veux juste ton amour. Seigneur, je te laisse prendre soin de moi. Puis là, le Seigneur dit, mon enfant, tu as bien fait, parce que toi, tu aurais mal agi, tu aurais fait des affaires que je ne voulais pas, mais check bien là. Regarde bien là, je vais m'occuper de cette situation-là. Laisse-moi gérer ça. Puis là, vous dites, OK, papa, je te laisse faire. Puis là, Dieu dit, « Hey, toi, le détestable, là! » Non, il ne dit pas ça non plus. Je ne sais pas comment il gère tout ça. Je ne sais pas comment Dieu gère tout ça, mais il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Moi, je n'ai pas besoin de gérer ça. Ce n'est pas mon appel. Mais si on se venge nous-mêmes, oh, là, on se ramasse dans des problèmes. J'en veux pas. Parce que j'en masse de problèmes comme ça. Hallelujah! OK, donc laissez agir la colère de Dieu. En passant, Hébreux 12, verset 15, nous dit, « Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu. » On peut se priver de la grâce de Dieu, la Bible nous dit. Comment? « À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, je ne veux pas avoir des racines d'amertume en moi. Je ne veux pas me priver de la grâce de Dieu. Donc, je vais pardonner, je vais relâcher et je vais laisser mon Père s'occuper de moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. OK. C'est-à-dire qu'on a vu jusqu'à présent quelqu'un qui me dirait « Je suis en colère contre Dieu. » La bonne réponse, c'est « Soyez en colère contre le diable. » C'est correct d'être en colère des fois quand on vit des choses, mais soyez en colère contre la bonne personne. Pas Dieu. Dieu est celui qui est pour vous. Amen. Et je suis en colère contre une personne. Choisissez plutôt d'être en colère contre le diable parce que la personne qui vous a blessé, c'est vraiment pas la source de tout ça. Le royaume des ténèbres est toujours la source. Parce qu'on comprend, on est dans une guerre spirituelle. La personne, là, elle s'est faite avoir, même elle s'est faite avoir, par des esprits méchants. Elle s'est faite séduite. Elle s'est faite séduire. Donc, elle est séduite. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va aimer cette personne-là quand même celle qui nous fait du mal. Vous comprenez? Le chemin de la perfection, là, où on s'épargne plein de problèmes, c'est le chemin de l'amour. On aime tout le monde tout le temps. C'est facile, hein? On aime toujours tout le monde, tout le temps. C'est pas toujours facile. C'est pour ça, des fois, on a besoin de prier puis demander, Seigneur, aide-moi à bien gérer cette chose-là. Puis des fois, si, admettons, vous avez donné une chose, une blessure au Seigneur, puis après, l'ennemi revient puis donne d'autres paroles, puis là, vous avez entretenu ça, faites le ménage encore. Faites le ménage bien des fois. Vous savez, la poussière, ça vient chez nous, hein? On n'invite pas la poussière et ça vient tout seul. L'ennemi peut revenir aussi puis dire, hey, regarde, là. Puis là, nous envoyer des choses, là. Puis là, si on les accueille, oh, on se repent encore. C'est correct, Dieu va vous accepter. Mais c'est mieux, quand l'ennemi revient, tu te dis, non, j'ai déjà géré ça, puis c'est mon Père qui s'en occupe. Sauf que, en arrière de moi, Satan. Qu'on peut faire ça, puis dire, Seigneur, je veux vraiment... Puis vous allez le savoir en passant, si votre cœur est... Vous le savez. Avez-vous déjà été comme ça en dedans, là? Si je vois une si vous voyez une personne puis vous êtes de même, là, c'est un signe que vous ne marchez pas dans l'amour. C'est un signe qu'il y a encore de l'amertume en vous. C'est un signe, je vous le dis. Mais si vous pouvez aimer tout le monde, c'est un signe que Dieu a fait son travail en vous. OK. Une autre personne dirait, ben moi, je suis épuisé, incapable de continuer. Je suis épuisé. Je suis incapable. La vie, c'est lourd, c'est dur. Avez-vous déjà été comme ça? Dites-le pas. OK. Ah, oh, je suis épuisé, je ne sais pas comment faire la vie chrétienne, c'est dur. Alléluia. Puis là, après, on arrive à l'église. Je suis épuisé, incapable de continuer. Si vous êtes épuisé, j'ai une bonne nouvelle. Vous venez de gagner la loto céleste. Ésaïe 44, 29, la combinaison gagnante. Ésaïe 40, 29. Dieu va faire des cadeaux aujourd'hui. Écoutez bien ceci. Ésaïe 40, 29, en parlant de Dieu, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est ça qu'il donne. Gloire à Dieu. Dans 2 21, ça dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Ça, je l'aime, celle-là. Celui qui est à bout, ou en québécois, il est à bout. Je taboute, là. Je suis plus capable. Vous êtes plus capable. Alléluia, vous êtes le candidat que Dieu recherchait parce qu'il veut vous donner sa force dans votre vie. Mais ça vous prend des fois, c'est super merveilleux d'être à bout. Savez-vous pourquoi c'est super merveilleux d'être à bout? Parce que quand on est à bout, on peut finalement laisser Dieu agir. Parce que quand on est, non, je suis capable, je vais gérer ça, Dieu dit, OK, j'aimerais ça que je puisse intervenir, mais non, je suis capable, mon Dieu. Laisse-moi faire, je sais te créer l'univers, là, mais moi je suis capable de gérer ça. Non, mais c'est vrai, on est comme ça. Le créateur de l'univers, là, il pourrait nous aider en passant. Il connaît les choses mieux que vous. Bon, sauf que là, c'est dit ici dans le texte, il donne la force à celui qui est fatigué, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ben moi, gloire à Dieu, je veux sa force. Et là, je vais vous lire un texte que vous connaissez. Dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10, c'est super merveilleux. Puis vous me donnez encore quelques instants, je vais bientôt finir, mais je n'ai pas fini encore. Mais écoutez bien ceci, ça dit trois fois, l'apôtre Paul a dit trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance agit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, wouhou, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, je réalise que je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que c'est là où je reçois la puissance de Dieu. C'est là où la puissance de Dieu vient sur ma vie. Quand je réalise que je suis faible en moi-même, donc, je peux me réjouir de ma faiblesse. C'est dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Puis c'est là, la présence de Dieu vient, l'onction vient, puis on devient fort. Pas en nous-mêmes, en lui. Voyez, c'est pour ça que c'est merveilleux de réaliser notre faillite spirituelle et notre dépendance. On est rien sans lui. Puis vous dites, ben là, voyons quand même, je ne crois pas ça. Dans Jean 15, je vais vous lire, juste vite, là, verset 5. Ça dit, « Je suis le cep et la vigne, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. » En parlant de votre arbre, là. Vous êtes un arbre, là, un pommier. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, restez attachés à l'arbre, à la vigne, si vous êtes ce fruit-là. Restez attachés à la vigne et vous verrez la main de Dieu. OK, donc, vous dites, « OK, c'est bien beau. » OK, je suis plus fâché contre Dieu, je suis plus fâché contre personne. Puis l'autre affaire, c'était quoi? Donc, on a dit, ah, je suis plus épuisé. Pourquoi? OK. Vous me laissez 5 minutes, puis je termine, là. Alléluia. Je sais que là, votre dinde est en train de cuire là, dans votre gros fourneau, là. Vous m'avez préparé un souper, puis je ne pourrais pas y aller. Ah, OK. Écoutez bien, là, je termine avec ceci. Mais donnez-moi 5 minutes de grâce, puis vous allez vivre quelque chose avec Dieu. OK, là, on a dit, c'est beau, c'est correct. Je relâche Dieu parce que Dieu n'a jamais été coupable, donc ça, c'est correct. Je change ma façon de penser. C'est correct, je vais laisser Dieu s'occuper avec les personnes qui m'ont blessé. Moi, de mon côté, je vais pardonner, je vais relâcher ces gens-là, puis je vais laisser Dieu s'occuper de ces gens-là. Puis là, c'est correct aussi pour les autres choses que je viens de mentionner, concernant la fatigue, tout ça. OK, je reçois de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu pour pouvoir avancer. Là, la clé pour votre persévérance, si vous voulez persévérer et tenir ferme jusqu'au bout, Vous voulez tenir ferme jusqu'au bout. Ce que vous avez besoin de faire ce matin, maintenant, ce n'est pas juste dire, OK, ça, je mets ça de côté. Mais là, vous devez renouveler votre foi en Dieu. Vous avez besoin de renouveler et vous attendre encore à Dieu. Parce que ce n'est pas assez de dire, OK, je fais le ménage à ce niveau-là. Là, vous devez prendre une position. Je vais m'attendre, encore une fois. Je vais oser croire que Dieu va faire quelque chose. Parce que des fois, quand c'est difficile, là, on a perdu courage. On dit, ben, OK, je reçois de Dieu, mais je ne sais pas si j'ose croire encore. J'ai été trop souvent déçu. Mais là, aujourd'hui, ce matin, Dieu vous dit, maintenant, là, revenez à la foi véritable et osez croire que je vais faire quelque chose. Osez croire en moi. Osez croire. Dans Ésaïe 40, verset 31, je vais vous lire à partir de la Bible, Martin. Ça dit, « Ceux qui s'attendent à l'Éternel prennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent, comme aux aigles. » C'est bizarre, hein? Leurs ailes, les ailes leur reviennent. Ça veut dire, c'est comme si on était coupé, chopé, plus d'ailes. L'aigle qui est comme ça, là. Mais là, vous commencez à croire en Dieu. Puis vous dites, « OK, Seigneur, je suis prêt. » Mais quand vous n'avez pas de foi, là, puis vous ne pensez jamais de prendre votre envol, vous n'avez pas besoin d'ailes. Ils sont comme chopés, coupés, absents. Peut-être que vous avez des plumes, ça fait ça, c'est tout, là, parce que Dieu sait que, regarde, il ira nulle part, il ne croit pas. Mais le moment, ça dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel prennent de nouvelles forces. Oh, tout d'un coup, la force de Dieu vient. C'est la force, la puissance de Dieu. Les ailes leur reviennent. Ça pousse. Ah oui! En fait, une autre version, ça dit, dans, je ne l'ai pas écrit, je pense. Oui, je n'ai pas marqué le nom de la version biblique, mais ça dit, il leur pousse des ailes, comme à l'aigle. Il leur pousse des ailes. Pourquoi vous avez besoin des ailes pour prendre votre envol? Mais comment prendre votre envol? Il faut renouveler votre foi dans le Seigneur. Vous devez vous attendre à Dieu. Si vous attendez à rien, il y a des gens qui disent, ben moi, je ne m'attends à rien parce que, regarde, si je ne m'attends à rien, je ne peux pas être déçu. Bien, savez-vous ce que vous pouvez avoir? Vous allez promener toute votre vie comme l'aigle, comme ça, là, puis vous allez nulle part, puis là, vous êtes avec les autres aigles qui sont comme ça. Ouais, c'est poche, hein, c'est plate, on ne fait rien, on fait juste se promener de même, là. Mais là, vous dites, non, moi, je vais sortir de la foule de personnes de même, là. Moi, là, je veux pousser des ailes. Et la façon, là, j'ai besoin de la force de Dieu pour y arriver, parce que je ne peux pas les... J'essaye, ça ne marche pas. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Là, je dis, Seigneur, OK, je renouvelle ma foi en toi. Et là, tout d'un coup, la puissance de Dieu vient. C'est ce que la Bible dit, là. Ceux qui s'attendent à l'Éternel prennent de nouvelles forces. La force vient de Dieu. Alléluia. Et là, les ailes poussent. Et là, je peux prendre mon envol. Ça dit quoi? Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Ça fait qu'être comme ça, là, la chrétienne de mère, comme j'ai illustré, ça, c'est parce qu'on ne se confie pas dans le Seigneur, parce que là, on se confie en nous-mêmes ou on essaye de nos propres forces. Mais c'est temps d'arrêter d'essayer, c'est temps de réaliser, sans Dieu, je ne suis absolument rien, il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu intervienne dans ma vie et la puissance de Dieu va venir. Dans le psaume 27, verset 14, ça dit, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » C'est un commandement, ça. Espère en l'Éternel. Ça ne dit pas si ça vous tente, si tout est bien, si vous osez croire. Non, ça dit espère en l'Éternel. On doit renouveler notre engagement et notre foi. Il dit, Seigneur, je te fais confiance avec ma vie. Amen. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a renouvelé notre foi et là, nos ailes ont poussé. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va dire à tout le monde, regarde mes ailes, sont-tu hot? Puis après, regarde les couleurs. C'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Là, renouvelez votre poursuite de Dieu. Prenez votre envol. Là, vous êtes beau, vous avez des ailes qui ont poussé, là, c'est majestueux. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces ailes-là? Renouvelez votre poursuite de Dieu. Prenez votre envol dans la présence de Dieu. C'est ça que Dieu nous dit. Comment vous allez faire ça? En invoquant le nom du Seigneur. Dans le psaume 91, verset 15, en Bible du Sommeur, c'est dit, « Il m'invoquera, je lui répondrai. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai. Je le couvrirai de gloire. » Ici, ça nous parle de sa présence. Donc, vous appelez, vous invoquez le nom du Seigneur, même dans la détresse, la puissance de Dieu vient sur vous et la gloire de Dieu vient sur vous, la présence de Dieu vient sur vous. C'est ça que vous avez besoin. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça que nous avons besoin. Amen. Jérémie 33, verset 3, ça dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. » Il ne dit pas « Invoque-moi et mon assistante va te répondre. » invoque-moi, puis tu vas pogner le répondeur. Ça dit pas ça. Et vous aurez votre choix de 10 choses. Bon, vous connaissez ça, là. Non, avec Dieu, c'est pas comme ça. Vous n'êtes pas comme pour parler au Père, numéro 1. Pour parler à Jésus, numéro 2. C'est pas comme ça. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai. Oh, là, c'est là où vous avez besoin d'être avec moi jusqu'à la fin du message, là. Parce que ça, c'est votre percée ici. Écoutez bien ceci-là. Dites à votre voisin, écoute bien, là. Parce que c'est là où vous avez besoin d'écouter, là. Parce que tout ce que j'ai dit à présent, c'est bon pour ça, là. Là, dans Jérémie 33, verset 3, ça dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Parce que là, je prends mon envol avec Dieu, je suis dans la présence de Dieu, je me perds dans la présence de Dieu, et c'est là où Dieu me dit, « Regarde bien, là, tu étais fatigué, là, parce qu'il y avait ça qui se passait. Là, je t'appelle, tu vas déclarer ce que je te dis de déclarer. Tu vas agir. Tu vas faire ce que je te dis de faire. Et Dieu, dans le temps, dans votre intimité avec Dieu, Dieu va se révéler à vous. Vous aurez des révélations et là, vous allez trouver votre vie chrétienne beaucoup plus facile parce que vous allez marcher dans la révélation et pas dans les efforts. Quand on essaye, ça va mal. Mais quand Dieu intervient et dit là, je vais vous montrer des choses cachées. Le soir, pendant que vous dormez, je vais vous donner des rêves. Vous allez voir des choses. Je vais vous montrer comment prier pour savoir comment décréter ou déclarer des choses pour que les choses changent dans vos vies. Vous comprenez? Ça, c'est super important. Si vous comprenez juste ça aujourd'hui, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va prier en esprit, dans Jude 1:20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sous votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Vous allez dans la présence de Dieu et Dieu va vous révéler des choses, il va vous révéler des choses. Et là, votre vie va changer. Et puis, la puissance de Dieu va vous rafraîchir, la présence de Dieu va vous rendre plus fort. Et quand vous allez avoir ces révélations-là, peut-être des songes, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, peu importe ce que Dieu va vous donner, vous pourrez avancer dans votre vie chrétienne, équipé avec le ciel. En fait, c'est le ciel qui est avec vous. Puis Dieu dit, regarde là, tu vas prier comme ça. Puis combien de fois ça nous a sauvé la vie? Gloire à Dieu, on a besoin de cette intimité avec Dieu pour pouvoir tenir ferme. Et tenir ferme, tout ça, c'est comme quelqu'un qui... Admettons, là, vous avez vu un gratte-ciel, là, de 100 étages, OK? Puis là, je vous invite aujourd'hui, admettons, là, ne faites pas ça à la maison, là. Mais vous allez vous tenir sur le bord, là. Vous allez dire, OK, tenez ferme, là. Tenez, là. Restez là. Faut tenir ferme, les amis. Puis là, vous êtes comme ça. Après un bout de temps, qu'est-ce qui se passe? Vos muscles vont se fatiguer, n'est-ce pas? Et vous allez plonger à votre mort. C'est ça que Satan veut. C'est ça qu'on a fait dans notre vie chrétienne. Mais si on dit, non, je vais prendre l'ascenseur, et l'ascenseur, c'est Jésus. Je vais être avec lui. Je vais monter jusqu'au 100e étage, mais dans la sécurité puis dans la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, toi, Dieu, là, pour toi, c'est une béquille. Je dis, non, moi, c'est pas une... Non. C'est beaucoup plus qu'une béquille. Moi, là, Dieu, là, c'est mon ascenseur. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, hey, je termine avec ça. J'ai eu un rêve cette nuit. Je vais vous le partager en terminant. Je vais inviter l'équipe de la louange pour que j'arrête de prêcher. Ils vont jouer de la musique, là, puis ça va me montrer, il faut que j'arrête de prêcher. Alléluia. Juste vous illustrer comment Dieu veut vous parler. J'ai eu un rêve très simple, mais c'est concernant le prophétique. Quand on est dans la présence de Dieu, on parle ça avec Dieu, Dieu va vous donner les stratégies, puis va vous donner l'onction d'accélération. Puis là, la frustration, puis la fatigue, toutes ces choses-là disparaissent. Pourquoi? Parce que Dieu vous donne des stratégies. Avant de me réveiller, j'avais un rêve. J'étais en train de monter la montagne de Bromont où j'habite. Notre maison est en bas de la montagne directement. Et là, j'étais en train de marcher dans la montagne. Puis habituellement, quand je fais le tour de la montagne, ça me prend 20 minutes. Quand je prends une marche. Mais dans mon rêve, Dieu m'a montré, « Ah, voici un nouveau chemin que tu ne connais pas, que je ne connaissais pas. » Puis là, j'ai emprunté ce chemin, un nouveau chemin que Dieu me créait. Là, j'emprunte ce chemin-là, j'arrive chez nous. Dans mon rêve, ça a pris 10 minutes. Je me réveille. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ce qui prend 20 minutes habituellement, en suivant le conseil de Dieu, pour me rendre à la maison dans mon voyage autour de la montagne, Dieu m'a dit, je te fais un chemin. Puis au lieu de prendre 20 minutes, ça va te prendre 10 minutes. Ça va te prendre la moitié du temps si tu peux juste entendre ce que je veux dire. Puis c'est la même chose pour vous. Si Dieu m'a donné ce message-là ce matin, je crois que c'est pour nous, tout le monde ensemble ici. Si vous êtes un intime de Dieu, Dieu va vous donner des stratégies. Puis c'est une onction d'accélération dans votre destinée, dans ce que Dieu vous appelle à faire. C'est bon ça, n'est-ce pas? Hey, 20 minutes, c'est bon, 20 minutes, c'est pas long, mais 10 minutes, c'est encore mieux. Avec le même résultat. Puis en plus, on a des ailes qui nous poussent. Donc, je termine avec un dernier verset. Dieu vous appelle aujourd'hui à dire, OK, je renouvelle ma foi dans le Seigneur aujourd'hui. Et je vais combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 1, verset 18, ça dit, c'est l'apôtre Paul qui dit à son fils spirituel Timothée, « Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat. » Pareil comme quand vous avez reçu une parole prophétique de la parole de Dieu, Dieu vous a donné sa parole, vous pouvez combattre le bon combat de la foi avec la parole de Dieu. Et si vous avez reçu des paroles prophétiques, vous pouvez dire, « Seigneur, tu as dit qu'un jour, on rejoindrait le peuple francophone par la télévision. Tu l'as dit, Seigneur, et maintenant je déclare cette chose-là et je m'accorde avec toi, ça arrive au nom de Jésus. » Et on est dans le sous-sol chez mes parents, on est 25 personnes et on est en train de déclarer une station de télévision s'installe ici au nom de Jésus. Tout le monde pourrait rire. Ben voyons donc. Vous comprenez comment ça peut sembler ridicule? Il y a des rêves qui sont en vous qui semblent ridicules aux gens de l'extérieur, mais quand Dieu vous a parlé, puis vous croyez ces paroles-là, la Bible nous dit, combat le bon combat. Combat le bon combat, mais appropriez-vous. Vous savez, vous devez vous approprier ces paroles-là et dire que le vent de Dieu souffle sur ces prophéties-là, puis au nom de Jésus, je les déclare, puis ça arrive. Peut-être qu'il y a juste du monde ici qui m'écoute. Est-ce que vous écoutez? Ce que je vous dis, c'est vrai, là, ce que on a besoin de réaliser que le diable veut qu'on s'écrase puis qu'on fasse rien. Qu'on soit dans nos choses blessantes, là, par exemple, comme je vous ai dit. C'est vrai, les êtres humains ne sont pas toujours fins. C'est vrai, ça. Mais relâchez, pardonnez, puis laissez Dieu agir. Mais vous, prenez la décision, moi, je vais servir mon Dieu. Je vais servir mon Dieu, puis il n'y a aucun démon de l'enfer qui va se réjouir parce que je ne fais rien. Non, je me lève et je vais déclarer la parole de Dieu. Je vais déclarer la parole prophétique qui a été prononcée sur ma vie. Et je verrai la gloire de Dieu. Bon, mais gloire à Dieu, il y en a deux qui croient, là. Peut-être sur Internet, il y en a qui croient, là. Écrivez-moi des amen, ça va m'encourager. On va se lever maintenant et on va prier. Aujourd'hui, s'il y a une ou plusieurs personnes que cette parole, c'est vraiment, vous ressentez, c'est une invitation pour vous de revenir vraiment à votre foi dans le Seigneur, je vais demander à tout le monde de prier, en fait. C'est pour dire, lever la main. On va tous le prier. Êtes-vous d'accord? On devrait tous être dans la foi. On ne devrait pas se laisser voler par le diable. Pensez-vous que c'est pour tout le monde? Ah non, c'est juste pour certains. Non, c'est pour tout le monde. On ne se laisse pas voler. Priez avec moi aujourd'hui, là. Père éternel, je m'engage à croire ta parole. Aujourd'hui, je fais le ménage. Seigneur Dieu, fais le ménage dans mon cœur. Je te donne les blessures. Je relâche les gens qui m'ont blessé. Je les bénis au nom de Jésus. J'appelle ta bénédiction sur leur vie et je récolte la bénédiction en retour. Seigneur Dieu, je crois dans ta parole. Je crois les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur ma vie. Et aujourd'hui, je prends la décision. Je vais marcher dedans. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, je veux prier maintenant. Je veux prier pour les personnes ici. Chaque personne qui a déjà été blessée. Je sais que c'est la majorité d'entre nous. Nous avons tous été blessés à un moment donné. Puis Seigneur, aujourd'hui, je prie maintenant que ton esprit vienne. Oui, Esprit de Dieu. Je prie maintenant que tu mettes un baume de guérison sur les cœurs aujourd'hui, maintenant. Que ton baume de guérison vienne. J'appelle la restauration des émotions.
Seigneur Dieu, que tu viennes guérir ces émotions qui ont été brisées, ces cœurs qui ont été brisés. J'appelle maintenant la restauration. J'appelle la restauration maintenant au nom de Jésus. Partout dans cette église, merci Esprit de Dieu, parce que tu fais le travail. Tu es notre consolateur. Tu es celui qui nous restaure. J'appelle maintenant cette restauration, cette guérison dans les profondeurs des cœurs aujourd'hui. J'appelle la restauration et une vision nouvelle. Seigneur, je prie maintenant pour une vision nouvelle. Je viens au nom de Jésus, je commande à tout esprit de séduction, tout voile du royaume des ténèbres. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que ces voiles quittent maintenant pour que mes frères et mes sœurs puissent voir la splendeur de l'Évangile, que la lumière de l'Éternel puisse luire sur leur chemin, qu'ils puissent voir les jours devant eux, des jours de paix, des jours dans ta présence, Seigneur Dieu. Je prie maintenant que chaque personne dans cette place puisse recevoir ce bon de guérison et le vent du Saint-Esprit pour qu'ils puissent être propulsés dans leur appel. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu fais le travail maintenant. Et on déclare que les plans de l'ennemi sont avortés dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Les choses et stratégies qu'il avait conçues pour détruire mes frères et mes sœurs, ou les stratégies qu'il avait conçues pour détruire leur destinée. Au nom de Jésus, je déclare l'avortement sur ces plans diaboliques au nom de Jésus. Et je déclare que les plans de Dieu s'accomplissent pour mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus, amen et amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Le croyez-vous ce matin? Votre Dieu est bon. Dieu est pour vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Votre Dieu est pour vous. Il est votre Père céleste. Puis il vous aime avec un amour éternel. Puis trouvez votre refuge en lui. Quand vous êtes fatigué, là, vous êtes fatigué, allez voir votre Père. Allez vous asseoir sur ses genoux. Laissez votre Père vous bercer. Retrouvez-vous dans sa présence et vous verrez, il va vous donner la force pour avancer. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te louer ce matin. Je veux te louer, Seigneur Dieu, pour les percées qu'on ne voit même pas dans le monde physique, mais qu'on va voir dans le monde physique. Seigneur Dieu, je te remercie ce matin pour les vies transformées, parce que ta parole transforme des vies. Vous connaîtrez la vérité, la vérité va vous affranchir. C'est une parole, Seigneur Dieu, que nous croyons aujourd'hui. Et on veut juste te remercier pour les vies transformées, pour les gens qui vont sortir de cette place, rencontrer de toi, Seigneur Dieu. Je veux te louer, t'adorer et te glorifier. Et Seigneur, on te remet le restant de cette journée. On te remercie pour ton esprit qui travaille avec nous dans nos conversations au restaurant ou peu importe où on peut aller. Merci, Seigneur Dieu, pour les choses que tu vas faire parmi nous. Amen et amen. Et je déclare le shalom de Dieu sur vous. Rien de manquant, rien de brisé en Jésus. Amen. Bonne journée et à mercredi soir.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.